J'ai compris cette dimension sacrée des cheveux aussi, je voulais revenir là-dessus, parce que finalement, en fait, les cheveux, comme tu le disais, ce sont nos antennes, en fait.
Non, mais c'est très bien ce que t'expliques ça.
Les antennes, ouais. En fait, c'est notre force vitale. Et ce sont les mémoires, ce que j'explique à chaque fois dans les livres Mika, les mémoires de tout ce qu'on a vécu, en fait. C'est créé au moment, à l'instant T, et ça reste figé.
Je suis Juliane Landrieux et j'ai créé le podcast Le Droit d'être pour donner un espace là où la compassion pour soi-même aide à révolutionner son quotidien. Un podcast pour révolutionner l'être soi. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment parler de sa vérité? Comment ne pas subir les on-dit, les qu'en dira-t-on, les regards et les jugements que l'on porte tout d'abord sur soi et puis ceux des autres? À travers chaque épisode de ce podcast, je souhaite que tu te connectes à l'histoire que tu entendras. Car chaque personne est unique et parle de son expression personnelle et de son évolution dans ce monde. Car chaque histoire vaut la peine d'être contée. Et qui de mieux que toi-même pour parler de ton essentiel?
Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Droit d'être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte. Charlotte est une femme multipotentielle. Charlotte est experte capillaire et elle vous racontera une partie de son histoire aujourd'hui. Bonjour Charlotte.
Salut Juliane.
Ça va?
Oui,
tu te sens comment?
Ça va, je me
sens... Un peu stressée?
Ouais. Ouais. Je suis entre excitée et stressée, mais plus excitée, on va dire.
Ouais. Okay. Alors, j'ai dit que tu étais une femme multipotentielle.
Ouais.
Parce que moi, je préfère utiliser ce terme-là plutôt que de dire que tu fais plein de choses et que t'es éparpillée comme la société a envie qu'on te fasse sentir, parce que t'es pas ça. Ouais. Tu es multipotentielle et tu agis avec différentes portes pour prendre soin des autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je te vois.
Oh, c'est beau, je vais te le piquer.
Ouais, avec plaisir. Voilà. Donc, j'ai dit aussi que tu étais experte capillaire. Pareil aussi, c'est un terme assez générique que j'emploie pour exprimer un petit peu tout ce que tu fais. Donc, moi, de ce que je vois, c'est que tu t'occupes souvent des femmes pour leur mariage, c'est-à-dire que tu coiffes les mariés.
Ouais.
Tu fais aussi un truc dont moi j'ai fait l'expérience, que t'as appelé le Give Makers, qui est un moment pour soi, en fait, au final, qu'on s'offre comme un massage, comme, je sais pas moi, je me dis un cours de yoga, des choses en fait qui vont te faire du bien, donc c'est une prestation que on s'offre à soi, mais que toi tu donnes.
Exactement.
Voilà. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, moi j'aimerais savoir, et c'est une des questions que j'avais pensé à te poser, c'est quel a été, est-ce qu'il y a eu un moment clé qui a fait que tu as changé et que tu es devenue ça? Parce que j'imagine que t'as pas tout le temps été Charlotte Hairstyle et que t'as eu d'autres boulots avant, et etc. Et ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que t'as fait avant? Qu'est-ce que t'as fait quand t'avais 18 ans, 20 ans, 25 ans?
Mon histoire de jeu sort.
Ouais.
Ouais, et bien...
Moi, je sais pas ça, en fait.
Je sais pas ça, en
non.
Vrai.
Je sais pas.
D'où je viens. Ouais. Bon, déjà, et mon petit accent, on sait bien que je viens du sud de la France, je viens de Carcassonne. Et en gros, bah, je vais te parler de mes études, du coup, pour parce que j'ai été perdue un petit peu dans mes études. Donc, moi, je suis une littéraire, et donc j'ai fait un bac L. Et ensuite, j'aime les gens, j'aime parler, j'aime les langues. Donc, j'ai toujours fait des langues, j'ai beaucoup fait d'allemand, d'ailleurs. Mmh. Et en fait, je suis partie après en BTS, assistante secrétaire trilingue.
Ah!
Ouais, okay. J'ai un BTS assistant secrétaire trilingue, et là j'ai découvert, du coup, bah, j'ai pu exercer mes langues, et donc mes langues c'est l'allemand et l'espagnol. J'ai pas fait d'anglais, déjà, à la base, déjà j'étais déjà rebelle, je voulais pas faire comme tout le monde, je voulais pas faire anglais parce que je voulais pas faire anglais. J'ai appris plus tard. Et du coup, j'ai fait ce BTS, et dans ce BTS j'ai eu des profs formidables, et dont une prof en communication qui m'a dit, mais t'es douée là-dedans. Par une licence continue,
dans
la com. Donc je suis partie, et moi j'aimais tout ce qui était culturel, donc je me suis dit, ben, je vais partir là-dedans, je vais partir en médiation culturelle et communication. Et donc je suis partie en licence, en deuxième année de licence médiation culturelle et communication. Et en plein milieu de l'année, ils nous ont changé, ils nous ont coupé notre licence. Je me suis retrouvée en sciences du langage. Ouais, il y a eu des grèves, hein, bien sûr, il y a plein de grèves à Montpellier. Et du coup, je suis partie en sciences du langage. Je me suis retrouvée avec des profs et c'était super intéressant. Moi, j'adore les langues, donc du coup, c'était intéressant pour moi. Mais pareil, en fait, pendant tous ces passages-là, j'ai rencontré des gens formidables. Mais moi, je trouvais pas ma place. Il y a ce questionnement sur la place, sur mais qu'est-ce que je fais, donc je kiffe, j'apprends des trucs sur les médias, sur l'information, sur la communication, tout ça c'était hyper intéressant.
T'avais quel âge quand t'as commencé à te poser ce genre de questions sur...
Mais moi depuis toujours.
D'accord.
Depuis toujours. Ouais. Je cherche ma place, je sais pas pourquoi je suis là et j'ai besoin de donner un sens et toutes mes copines autour de moi savaient à peu près ce qu'elles allaient faire et vers quel métier elles allaient aller. Et moi, en fait, à chaque fois, ça résonnait pas, en fait. Je trouvais pas le métier. D'ailleurs, j'ai demandé souvent une liste des métiers. Y aurait-il une liste des métiers, de tous les métiers? Donc, je passais ma vie dans les centres d'orientation pour qu'on me dise, fais ci, fais ça. Mais en fait, ça me convenait pas, en fait, tu vois. Et donc, j'allais vers ce que j'aimais. J'ai continué à faire mes études, de faire ce que j'aimais, en fait, les domaines dans lesquels je me sentais à l'aise et qui étaient intéressants pour moi. Et puis il fallait faire des études, hein. Tu sais bien que les études c'est important, donc
oui, bien
donc
sûr.
Je fais les études parce qu'il faut faire les études.
C'était l'ancien monde, ça.
Ouais. Donc je fais mes études, je suis en licence sciences du langage, je passe ma licence, très bien, je continue en master infocom. Je suis le mood de mes copines et de ce qu'il faut faire parce que
puis on fait bien la fête en master infocom.
Exactement.
Du coup tu te dis bon allez.
Finalement c'est pas mal la vie d'étudiante. Et j'ai adoré ça, et surtout au niveau culturel, parce que j'étais dans des grandes villes comme Toulouse, Montpellier. Et puis, il se passe que à un moment donné, je me retrouve en amphithéâtre, du coup, dans mon master d'infocom, et que je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait?
Ah ouais. Ouais, donc t'as eu vraiment un moment où t'as senti que c'était lourd, quoi.
Ouais. En fait, on parlait politique. Pour moi, c'était hyper lourd. Et puis surtout, je voyais toute la manipulation des médias, tout ça, et ça vibrait plus chez moi, en fait. Là, il y a eu vraiment cette prise de conscience de, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? C'est pas ça que je veux faire de ma vie. Du coup, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Je vais prendre un petit taf. Comme ça je vais gagner ma vie un petit peu et je vais prendre du temps pour aller voir des spectacles et c'est ça que j'aimais en fait, rencontrer les gens et aller voir des spectacles, l'art, voilà. Donc du coup la danse, du théâtre d'impro, j'adore. Et du coup je me suis retrouvée à mon dernier partiel, du coup j'ai encore la lettre, j'ai écrit une lettre à mon dernier partiel au professeur pour le remercier de tout ce qu'il m'avait enseigné et que maintenant c'est bon, c'était fini et que j'allais apprendre par moi-même, en fait.
Il a dû halluciner.
En plus, on n'avait rien révisé, tu sais, j'étais avec ma copine, ma coloc de l'époque, et qui, elle non plus, n'avait rien révisé et qui me voyait gratter et qui était là, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle écrit?
Et t'écrivais la lettre.
J'écrivais
dans
la lettre.
Dans ton partiel.
Oui, en fait, le jour du partiel.
Ah, je me suis dit, peut-être que tu lui as donné avant. Non, c'est sur le truc de l'examen, t'as écrit la lettre.
Je suis allée, j'ai écrit, donc ils ont dû halluciner un peu.
Est-ce qu'elle est pas badass, celle-là? La badass.
Je l'ai dit.
Non,
merci.
Mais en vrai, c'est excellent. Enfin, moi, en tant que formatrice aujourd'hui, et moi, je me dis, mais un truc, en tant que prof, franchement, moi, je kifferais recevoir ça.
Ouais.
Je trouve ça génial. Parce que c'est vraiment au final, ce qu'on essaye d'enseigner aux gens normalement, c'est d'être autonome, de pouvoir prendre des décisions par eux-mêmes, de savoir être critique. Normalement, normalement, c'est fait pour ça, l'éducation. Hein. Je sais que c'est un petit peu dévié aujourd'hui. Mais je trouve que au début c'est fait pour ça, et moi, quelqu'un qui me rendrait ça avec une lettre comme ça, mais déjà je lui valide son truc là. Déjà je lui dis ouais, franchement, voilà, fallait avoir les couilles, comme on dit.
Ouais.
Fallait avoir les couilles ou les ovaires, d'ailleurs.
Ouais,
on va dire ça un peu.
La force.
Voilà, fallait avoir les ovaires, et puis fallait être déterminé, quoi, sur ce que t'allais, même si tu savais pas ce que t'allais faire après ou où est-ce que t'allais aller, tu savais que là, il fallait que t'arrêtes ça, quoi.
Ouais, je suis comme ça, moi. Je suis assez déterminée. Quand j'ai pris la décision,
Mais tu sais, je pense que c'est un trait féminin.
Ouais.
On prend peut-être beaucoup de temps parce que plein de doutes, on a la société qui te dit, mais non, reste là où tu es. Plus tard qu'une semaine, j'ai entendu une des femmes que je mentore qui me racontait sa nièce qui est en en master de je sais pas quoi et qui a envie de tout arrêter parce qu'en fait elle est en train d'avoir des cheveux blancs et qu'elle est toute jeune et tout et que en fait elle veut pas faire ça.
Mais bien sûr.
Et qu'elle l'a fait, je pense, pour, comme tu disais, rentrer dans les clous, faire des études parce qu'il faut en faire, parce qu'on te dit que c'est bien d'en faire, parce qu'on te dit que c'est que ça la porte vers une vie réussie.
Ouais.
Voilà, faut que tu coches les cases et tout et tout. Ouais. Et en fait elle disait mais non, mais moi que je lui ai dit mais non, mais continue, il te reste que 6 mois, il te reste que 1 an ou je sais plus quoi c'était. Et en fait moi j'étais là. Ben non, en fait, si elle veut arrêter, faut la soutenir là dans sa décision. Faut pas lui dire. Enfin, ça sert à quoi qu'elle ait ce diplôme-là si de toute façon elle va pas l'utiliser, si de tout ça, c'est entre guillemets perdre 6 mois de sa vie. Surtout si elle le sent, qu'elle sait que c'est bon, c'est fini, quoi. Donc moi, je trouve ça hyper courageux d'avoir pris cette décision-là et de pas avoir laissé l'extérieur te dire ben non, continue,
Commencé.
Et que t'es peut-être trouvé un soutien, enfin j'espère en tout cas que t'as trouvé un soutien dans ta décision, quoi.
Oui, oui, après c'est évident que je vais là où j'ai le soutien de ma famille et que j'ai fait déjà ce que j'avais à faire, c'était, ils sont, je pense que je me suis toujours débrouillée, tu vois, j'ai toujours bossé à côté, je me suis toujours débrouillée en fait, et j'ai toujours été soutenue par ma famille, j'ai une chance quand même d'avoir des super parents aussi quand même, faut dire. Ouais. Et du coup, oui, ils ont leurs défauts, hein, mais
ouais, comme tout le monde. Voilà.
Mais sur ça, ils ont été top. Et bah du coup, j'ai arrêté et puis j'ai fait mon petit boulot d'hôtesse d'accueil, formidable.
Ah ouais. Ouais. Ah ben voilà un truc de contact avec les gens, trop bien.
Complet. J'ai toujours fait hôtesse d'accueil, ça m'a sauvé, c'était génial et puis ça m'a permis d'avoir un réseau formidable aussi, tu vois.
Et c'était dans quel secteur d'activité?
Quel secteur? Ouais. Chez Renault.
Ah, pas du tout, hein.
Rien à voir avec la coiffure. Ça me fait rire quand les gens me disent t'es coiffeuse depuis longtemps. Oh oui, depuis. Alors j'étais dans les voitures, mais j'ai fait de tout. Je peux m'adapter partout en fait. En vrai, c'est ça mon super pouvoir. Et
c'est pour ça que je dis multipotentiel.
Oui, oui, tu vois.
Parce que tu sais pas.
Après,
c'est vrai.
Ouais, voilà, je l'ai compris après. Du coup, je suis chez Renault et puis j'évolue chez Renault. Je passe à la mécanique. Bon, je faisais pas les voitures, mais j'étais au standard à la mécanique. Mais et puis après, ben j'ai rencontré le père de mon fils et puis ben ça a été un déclic, quoi. De toute façon, je savais, j'ai toujours dit à mes parents que je serais pas en France, en fait, que je vivrais pas en France. Et donc c'est pour ça que j'ai fait de nombreux voyages. Et depuis la quatrième, j'ai fait des échanges avec l'Allemagne. Donc chaque année, j'avais des correspondantes qui venaient. Moi, je partais, donc j'ai passé énormément de temps en Allemagne. Et du coup, je reviens ici, je découvre ici la Réunion.
Dans quelle année t'es arrivée à la Réunion ?
En 2012.
2012 ?
Oui, ah ouais. En 2012, je suis arrivée à la Réunion.
Ouais.
Et avec Samba dans mon ventre, direct,
ouais.
Mon fils.
Ça faisait combien de temps que t'étais avec le père de ton fils?
Ça faisait pas longtemps, hein. Ça faisait, je crois que ça faisait même pas un an qu'on était ensemble.
D'accord, ok.
Pareil, ça allait super vite. Et du coup, donc je suis arrivée ici et là, ça a été un gros coup de cœur. Là, j'ai senti que vraiment mes racines étaient là. Là, la Réunion m'a appelé, m'a dit.
C'est marrant cette histoire d'origine au final, hein. Parce que des fois, on est à un endroit et en fait, on se sent pas forcément à sa place et des fois, on se déplace ailleurs. Et ça nous ancre incroyablement, genre un truc on n'aurait jamais cru. Et c'est drôle parce que moi, tu vois, qui ai vécu très longtemps en Australie, moi j'avais quand même toujours besoin de rentrer à la Réunion pour retrouver qui j'étais, en tout cas dans mes origines, même si pendant longtemps je me suis posé cette question de qui je suis au final, mais qu'est-ce que ça veut dire surtout de qui on est, parce que je pense que c'est ça la question qui est essentielle. C'est bien beau de se demander qui on est. Mais comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour soi déjà? Comment est-ce que je définis cette question-là et comment je la décortique? Et je trouve que moi, l'Australie m'a appris énormément sur qui je suis. Le fait de parler anglais m'a appris énormément sur qui je suis. Je pense que j'aurais jamais pu être autant entière et authentique et tout ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas appris cette langue. Tu vois, parce que ça m'a ouvert des portes de ouf dans mon cerveau, des connexions neurologiques incroyables, ça m'a appris à rencontrer d'autres cultures, à trouver des cultures très similaires à la mienne, c'est-à-dire à ma culture réunionnaise. Comme je te disais tout à l'heure, moi, mon meilleur ami, il est malaisien quand même, tu vois. Et pourtant, c'est des cultures qui sont très similaires à moi, à la mienne, dans ses valeurs en tout cas, pas forcément dans la vie de tous les jours, hein, ou dans
la
cuisine, ou des choses comme ça. Et encore, parce que les épices malaisiennes, indonésiennes, les épices de Réunion, c'est à peu près les mêmes, ça va. Sauf que ça poivre plus la gueule quand t'es là-bas, mais voilà. Mais dans les valeurs et dans la façon de créer des relations avec l'autre, je me retrouvais énormément, ouais. Chose que je ne trouvais pas chez les Australiens forcément. Les Australiens qui sont nés là-bas, qui sont Australiens, purs, et que je trouvais pas, et que j'avais toujours besoin de revenir, tu vois, ici, à La Réunion, me ressourcer, comme on dit, c'est-à-dire toucher ma source, et repartir, source, tu vois. Et c'est drôle de voir, c'est intéressant de voir que pour toi, quand t'es arrivé là, ça fait ça. Mais tu sais, je vais te poser une question. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, et quand ils arrivent ici, ils ont ce même sentiment-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
Mais meuf, ça s'appelle La Réunion.
Bon, on a fini le podcast.
Ça fait sens, c'est marrant, parce que j'ai, il n'y a pas longtemps, dans un gimmicker, une nouvelle arrivée sur l'île. Et elle m'a dit pareil. Elle m'a dit, et puis il y a un gros turnover ici. Les gens viennent, ils sont attirés, et puis ça repart très vite. Et je lui ai dit pareil, je lui ai dit, mais enfin, ça s'appelle La Réunion. C'est le seul endroit au monde où autant de communautés, de religions, de façons de penser, de se cohabitent dans un si petit espace. Et où la nature est d'une densité incroyable et d'une richesse incroyable. Enfin, moi, je remercie tous les jours cette beauté. On est sur un paradis, littéralement. On est sur un paradis. Et pour moi, ici, si t'es pas prêt à voir ce paradis, bah, tu t'en vas, en fait. Là, elle fait le tri toute seule, cette île. Et au-delà de ça même, pour moi... c'est la réunion des âmes, peut-être des vieilles âmes ou des jeunes âmes, j'en sais rien. Mais c'est vraiment une réunion, c'est un point où on va se retrouver, on va vivre quelque chose, une expérience plus ou moins longue. Et après, où tu vas grandir, ça va t'enrichir. Et après, tu vas repartir. Ou tu restes là. Moi, je reste là.
Oui, toi, ça je pense casse. Que... Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est... Je trouve hyper intéressant cette notion de, finalement, d'enracinement. Ou de ressourcement qui reste au final très subjectif, tu vois. Et je sais qu'il y a plein de gens, il y a plein de Réunionnais qui habitent ailleurs, et il y en a qui partent aussi parce qu'ils sont obligés, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que dans la société c'est peut-être pas évident de se construire ici quand on est créole.
Mais bien sûr, de base. Et tant mieux.
Ouais.
Tant mieux.
Mais oui, mais il y en a beaucoup qui en souffrent vraiment, tu vois, de ce déracinement. Il n'y a pas ce mot-là qui existe pour rien, et je trouve intéressant de se dire, ben, en fait, au final, est-ce que ce serait pas une façon de penser ou un alignement avec comment est ta vie qui fait que tu te sens chez toi dans un endroit. Il y a une expression en anglais qui, si je traduis, ça veut dire ta maison, c'est où tu habites en ce moment.
Oui.
Tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens qui habitent dans des endroits, ils se sentent pas chez eux. Tu vois.
C'est ça.
Et même si peut-être ils ont un boulot très bien, ils ont des amis super et tout, mais finalement leur environnement extérieur n'est pas quelque chose d'épanouissant, tu vois. Ouais. Et c'est là après je me dis, bah oui, mais après c'est toi qui choisis où tu es, quoi.
Et voilà. C'est ça. Et tout est là, d'avoir le courage de suivre, de te dire non, mais en fait là je me sens bien. Et moi j'ai vraiment senti ça. C'est-à-dire que j'ai toujours dit à mes parents que je vivrais pas en France, je le savais, je le sentais. Mais et donc j'ai fait plusieurs villes et j'ai beaucoup voyagé aussi pareil pour essayer de trouver cette connexion, en fait. Juste les racines, c'est de connecter, en fait. Mais au final, c'est pour ça qu'on voyage, qu'on va d'un endroit à un autre pour connecter un petit peu à droite à gauche. Et finalement, bah moi, ma maison, elle est à La Réunion, elle est à Carcassonne, elle est un petit peu aussi en Allemagne. C'est ma vieille maison là-bas, ça fait longtemps que je suis pas allée, mais elle est les deux, tu vois. Je peux pas me séparer, j'ai besoin de retourner. Comme ça, t'as eu besoin de revenir.
C'est des composants de qui tu es, quoi.
C'est ça. Et ma maison, elle est là. J'ai plusieurs maisons.
Est-ce que t'as eu peur de venir à La Réunion avec ton fils dans ton ventre, nouvelle vie, t'allais pas accoucher en France auprès de ta famille? Est-ce que, en tant que jeune maman, ça a été une étape un peu difficile pour toi, ou est-ce que tu l'as très bien vécu?
Alors, c'est... globalement, je l'ai bien vécu.
Ouais.
Parce que dès que j'ai mis le pied sur cette terre et que on est resté 10 jours, en fait, on est venu une première fois en vacances.
D'accord.
C'est là que j'ai ressenti que j'étais chez moi. Et là, j'ai eu ce sens. C'est comme si j'étais vraiment soulagée, tu sais.
Ah oui.
Je vais pouvoir être moi. Je vais pouvoir être moi. Là, je sens que je suis bien, là, je suis à ma place. Et du coup, ça a été un soulagement, en fait, plus qu'autre chose, au final, de quitter la métropole et de venir ici. Même s'il y avait tout à faire, même si on n'avait pas un rond, On avait quand même de la chance d'avoir des connaissances et du coup lui sa famille pour nous héberger tout ça. Mais ouais, c'était j'ai pas peur de ça parce que moi ma vie c'est toujours comme ça. Ça c'est d'un coup c'est enclenché, il y a plein de changements et après c'est sur le long terme après que ça j'ai eu des peurs et j'ai eu des challenges forcément d'être pour la première fois maman aussi loin de ma maman.
Ouais.
Mais en fait, c'était ça dont j'avais besoin. J'avais besoin d'être loin de mes parents pour me construire moi en tant que maman et de voir que j'étais libre de créer la maman que j'avais envie d'être. Mmh. Et qu'il fallait que je me détache de la mienne pour créer celle que j'avais envie d'être. Mmh. Et donc, c'était dur, c'était pas évident, ça a été très douloureux.
C'est un énorme message à passer, et surtout, je pense à toutes les femmes réunionnaises créoles qui nous écoutent, qui sont peut-être encore... qui se sentent obligées de se comporter de telle ou telle façon parce qu'elles ont grandi dans tel ou tel environnement et que finalement elles reproduisent des schémas et des comportements qu'elles ont vécu elles-mêmes et qu'elles savent pas trop par où passer et je trouve que l'éloignement géographique aide beaucoup. Et tu vois, moi c'est con, mais ma mère elle habite juste à la montagne, mais tu vois, il y a un an et demi, comme je t'avais dit plusieurs fois, mais moi je sais qu'il y a eu un moment donné, je sais pas pourquoi, moi j'ai dû partir de la montagne, d'être près de mes parents, eux ça a été super dur pour eux, et moi c'était... Je me sentais
libre,
libérée, on va dire, parce que je me suis sentie toujours libre dans ma vie.
Oui.
Mais puis je sentais aussi que j'avais besoin de construire ma famille,
oui,
à moi.
C'est
aujourd'hui,
ça.
Même si on est en famille recomposée, je suis dans ma famille à moi que j'ai créée moi et que je co-crée avec mon chéri, tu vois. Et voilà, et qu'on va continuer à co-créer. Mais je trouve que ouais, parfois on ne sait pas trop comment faire. Et peut-être, ouais, juste un éloignement géographique déjà dans un premier temps. Et c'est juste changer de ville, hein, la Réunion. Hein, c'est pas forcément partir dans un autre pays.
C'est super.
Voilà, ou changer de quartier.
Mais
hein,
oui.
Voilà.
C'est juste ça.
Des fois, c'est très simple, en fait. Le changement peut s'opérer de manière très, très simple. Souvent, on a tendance à avoir ces croyances de dire « Ah ouais, il faut que je change radicalement toute ma vie. » Bah oui, si c'est ça qui te parle. Mais en vrai, t'es pas obligé de faire ça. Si tu as envie de te détacher de certaines mémoires transgénérationnelles, de certains comportements transgénérationnels, de certains comportements que toi t'as adopté aussi depuis que t'es petit, ton adolescence, et qu'en fait t'as accumulé mais qui représentent pas qui tu es aujourd'hui. Des fois c'est dur de se détacher de qui on était pour devenir qui on est. Mais ouais. Et donc du coup tu arrives à la Réunion, tu te sens vraiment comme chez toi. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ou est-ce que t'es que maman pendant quelques temps?
Je suis que maman pendant quelques temps et puis très vite.
C'est un travail de ouf déjà.
C'est un travail de ouf.
De
et
ouf.
Puis très vite, j'ai besoin de nourrir mes autres passions.
Ouais.
et je retrouve du travail. Il faut que je retrouve du travail. De toute façon, on était en train de manger les breads de la cour. Donc,
mais c'est bon les breads.
C'était trop bon les breads. Merci la Réunion. Merci l'abondance de la Réunion. C'était tellement magique. On a mangé les breads de la cour. Et donc, à un moment donné, il fallait quand même s'activer pour gagner de l'argent et nourrir cet enfant. Du coup,
parce que lui, il mangeait pas de bread, il était trop petit.
Ouais, il mangeait mon lait, à un moment donné, il mange plus le lait. donc j'ai trouvé du travail. Et j'ai trouvé du travail, à nouveau, par le biais de l'événementiel, du coup, d'hôtesse d'accueil. Et me voilà, à passer un entretien pour, je sais pas quoi d'ailleurs, je passe un entretien pour être, pour travailler dans un gros groupe et je me retrouve chez Nespresso.
Ah!
Ta-ta-tan!
Ah!
Et donc je me retrouve à Saint-Denis, dans la ville, à travailler longuement, comme la plupart des gens.
Ça avait l'air passionnant ton travail, vu ta tête. Vous voyez pas sa tête? Moi, ouais, je la vois, mais ça avait l'air passionnant.
C'était une épreuve.
Ouais. T'as travaillé combien de temps là-bas?
J'ai travaillé un an et demi, peut-être deux ans, je sais plus.
Et du coup, on en vient un peu à comment est devenue Charlotte Hairstyle.
Ah, c'est là qu'elle est née, Charlotte Hairstyle.
Mais à quel moment? C'est quoi l'expérience?
L'expérience
qui a fait que...
C'est le burn-out. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Bon, c'est pas la meilleure chose, c'est une des meilleures choses, parce que bien évidemment j'en ai eu d'autres.
Elle a eu un fils.
J'ai eu un enfant.
En option, c'était potentiellement une bonne chose.
Il y a eu d'autres choses, il y a eu plein de renaissances.
Non, mais on va dire que oui, d'avoir le burn-out.
C'est une épreuve qui a été hyper enrichissante. Parce que je suis allée au bout de moi-même, en fait. Là, je suis allée dans ma limite de ce que je pouvais. De comment était ma vie et de ce que je me souhaitais, en fait. Je me suis dit, mais enfin, je suis pas venue là pour être comme à Paris, en fait. Donc là, à la base, j'étais venue avec plein de rêves et de me dire je sens ici une connexion, quelque chose de fort. Et là, je me retrouve dans les embouteillages avec la ville et les gens stressés, c'est pas possible. Donc là, burn-out, je ne sais pas ce qui se passe. Dès que tu me parles du travail, je pleure.
Ah, j'allais te demander comment ça se manifeste.
En fait, ça se manifeste comme ça. Je ne savais même pas ce que c'était, en fait, moi. Mais le seul moment où j'étais heureuse dans mon travail, c'est quand, à la pause de midi, je coiffais tous mes collègues.
Ah, d'accord.
Et que, du coup, ben, c'était ma soupape, en fait. Je rentrais de la maison, je rentrais super tard, parce que mon fils, en plus, était gardé à la Saline, donc je faisais des kilomètres en voiture. Et du coup, je rentrais chez moi, il était peut-être 22h, 23h, et jusqu'à minuit, 1h du matin, j'étais sur YouTube en train de regarder les meufs. It's so easy to do. On commence à faire les tutos, tu sais.
Personnellement, petite anecdote, moi ça fait 4 ans que j'essaye de faire un fishtail dans mes cheveux et dans ceux de ma fille et je n'arrive toujours pas.
Je te voilà. Montrerai le petit.
Non mais arrête, il y a plein de gens qui m'ont déjà dit ça.
Oui mais moi c'est pas pareil.
Déjà j'arrive à faire la tresse à l'envers, c'est déjà pas mal.
Oui mais voilà.
Voilà, déjà c'est pas mal. Donc chaque chose en son temps. Étape numéro 1, donc étape numéro 1 de Charlotte Hairstyle, c'était de coiffer ses collègues entre midi et 2.
Exactement.
Et puis de regarder des tutos.
Et de regarder
du coup,
des tutos.
T'es autodidacte à fond, quoi.
Oui, mais je suis comme ça, en fait. Moi, dès qu'il y a un truc qui me plaît, j'y vais à fond. Et...
Projecteur.
Enfin, projecteur, ça y est, c'est bon, maintenant, je connais. Je sais. Du coup, je me mets là-dedans. Et ça me fait ma soupape. Sauf qu'à un moment donné, la soupape, c'est bien joli, mais en même temps.
Se coucher à 1h du matin tous les soirs et se lever à 6.
C'est ça. Donc, ça me fait du bien, si tu veux, de coiffer. Je sens qu'il y a vraiment ce truc-là. Et puis, du coup, comme je coiffe tout le monde. Et qu'il y a toujours des mariages à La Réunion. Mais tout le monde me dit, ah, j'ai un mariage, là, tu veux pas me coiffer, nani, nana. Donc, je coiffe, au final, mes copines. Puis, quand on sort, je coiffe mes copines. Et, en fait, finalement, je me régale plus de coiffer mes copines que d'aller sortir, bon, je danse, j'adore danser. Mais, et puis, un jour, ben, voilà. Donc, je suis dans ce burn-out. Je suis en arrêt maladie. Et
Ah oui, carrément, donc c'est vraiment aller jusqu'à l'arrêt maladie.
Oui, coupé, parce que moi je suis quand même assez positive et tu vois, je me connaissais pas en fait aussi dark.
Mm.
Et là, je suis allée voir mon côté sombre, là, vraiment, la dépression quoi. Mm. Et du coup, ça m'a fait tellement mal, ça m'a fait trop bizarre. Et du coup, il a fallu vraiment que je me raccroche aux branches avec l'aide d'une psy. Pour faire des trucs qui me faisaient plaisir en fait. Mmh. Et donc va chercher ce qui te fait plaisir et ressource-toi avec ce qui te fait plaisir. Mmh. Ben la coiffure en fait.
Mmh.
Et du coup là, il y a des opportunités qui sont arrivées. J'ai une copine qui m'a dit, j'ai ma copine qui arrive du Canada, elle va se marier, faut que tu la coiffes. Donc j'ai dit mais je suis pas prête, elle m'a dit si. Du coup, je me suis lancée.
D'accord.
J'ai fait ça.
Et ça, c'était du coup 2012. T'arrives, ton fils naît.
Ton fils naît quand? 2017-2018 ouais. Peut-être.
Ton fils il naît quoi? 2013.
13.
Ouais, 2013. Oui, c'est ça, parce que je me disais, il a un an de plus que ma fille. Ouais. Et d'accord. Et ensuite, 2017, ça arrive ça où tu travailles encore chez Nespresso et puis arrive ce déclic là un petit peu.
Où je travaille comme ça.
Et pour la première fois.
Pour la première fois.
Où t'es payé?
Oui.
Oui.
Où voilà, je suis payé.
C'est ça. Voilà.
Fait. Ouais. Et là, révélation. Donc, j'ai jamais autant transpiré de ma vie, je crois. Elle est géniale, Lauriane. Si elle m'entend, elle était formidable. C'était exceptionnel comme expérience. C'était génial. Et donc, du coup, je suis allée lui faire l'essai chez elle. Je l'ai coiffée avec toutes ses copines autour d'elle. C'est la première fois et la dernière fois que j'ai fait ça, d'ailleurs, de faire un essai avec autant de personnes autour de moi qui regardaient, scrutaient ce que je faisais. Alors que moi-même, je savais pas ce que je faisais. Et du coup j'ai fait son mariage et le jour J elle a pleuré. Enfin j'ai fait son chignon, elle a pleuré, j'ai pleuré et je me suis dit mais enfin je frisson. Je veux faire ça en fait, je veux faire ça de ma vie en fait. Je veux être payée pour ça, c'est génial. Et donc du coup je me suis dit je vais faire ça. Ensuite Tika aussi mon amie m'a fait travailler, elle avait besoin sur un shooting de travailler et du coup j'ai dit mais je vais venir sur ton shooting, mais je sais pas. Elle m'a dit, mais enfin, elle me dit, Charles, tu fais ça tous les week-ends. Ok?
Oui, c'est ça.
Tu nous coiffes tous les week-ends. Donc là, c'est la même chose, mais sauf que tu vas te payer.
Voilà.
D'accord. Oui. Donc là, ça y est, ça s'est ancré, ça s'est concrétisé que, ah, tiens, je vais vraiment faire ça. Je vais essayer de
en
faire
ça. En fait, je peux gagner de l'argent avec une passion, avec qui
ça.
Je suis, quoi. Ouais.
Et, ah oui, il y a eu un autre truc aussi, un autre événement déclencheur, c'était au Grand Boucan. Et ça, c'était vraiment le tout début, je crois. C'était vraiment les prémices, là, encore. C'était avant ça, encore. J'ai aidé pour le carnaval, tu sais, le Grand Boucan. parce que mes beaux-parents...
Vous n'avez pas connu ça, parce qu'en fait, depuis les deux dernières années, il n'y a plus. J'espère qu'on aura l'occasion de le revivre, c'était... parce que ce grand camp, c'est vraiment une expérience à vivre chouette. À La Réunion. C'est vraiment... Moi, je le vis depuis que j'ai 15 ans, tu vois. Nous, on était des couples en plus à l'école, c'était n'importe quoi. Mais ouais, tu finis sur la plage, à je sais pas quelle heure du matin, tu dors pas pendant deux jours. Enfin, c'était énorme. Bon, aujourd'hui, si je dors pas pendant deux jours, je meurs pendant les six prochains mois. Voilà. Donc,
mais au final, tu dors jusqu'à minuit et t'as l'impression d'avoir passé...
Ah oui, par contre, oui, tout à fait, t'as raison, c'est clair. Non, mais oui, mais c'est vraiment une expérience à vivre. Et du coup, le grand boucan, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais en fait, je donne un coup de main, du coup, comme j'aime coiffer, du coup, ma belle-mère me dit, mais viens coiffer les filles pour le préparer pour les chars et tout ça. Donc, je coiffe. Et puis, en fait, tout le monde me demande où est ton salon.
Ah.
Et je dis, mais je suis pas coiffeuse. Et c'est là que, du coup, est venu à commencer à pousser la graine, tu vois. C'est vraiment là que ça a commencé à germer. C'est-à-dire qu'elle me dit, mais il est où ton salon? Je dis, mais je n'ai pas de salon, enfin, je ne suis pas coiffeuse. Ah bon, mais c'est pas possible, t'es coiffeuse. Non, je ne suis pas coiffeuse. Mais peut-être que tu devrais être coiffeuse.
Ouais, peut-être, ouais.
Eh oui, mais comme si tu veux, c'était toujours ce truc des études, des langues, tu vois, hiérarchiquement, enfin, socialement, c'est pas très bien vu d'être coiffeuse. Et, enfin, tu vois, c'est un métier qui a une très mauvaise réputation. Hein. Et du coup, je me suis dit, ok, moi, coiffeuse, pour moi, c'était dans un salon à couper les cheveux, à faire des couleurs et des permanentes. Je me voyais pas comme ça, en fait. Donc, pour moi, j'arrivais pas à m'associer à ce métier-là. Du coup, j'ai découvert après qu'il y avait ce métier de coiffeuse événementielle. Et donc, là, je me suis dit, ok, ça me va, en fait. Je vais faire que des chignons, des tresses, des coiffures, en fait. Je vais pas couper, je vais pas faire de couleurs, je vais pas faire ce que j'aime pas, je vais faire que ce que j'aime. Et donc, j'ai démarré ça petit à petit avec...
C'est hyper cool que tu parles du fait que le métier de coiffeuse, c'est pas bien vu parce que je pensais à comment t'introduire. Tu vois, hier, je pensais beaucoup, en plus, on se connaît. Puis voilà, moi, t'es ma sœur d'âme, je sais pas c'est quoi. Là, mais bon, bref, on comprend toujours pas c'est quoi notre lien, mais on va trouver un jour.
Il y a rien à comprendre.
Y a rien à comprendre. Mais c'est vrai que j'étais en train de me dire, mais c'est vrai que coiffeuse, c'est pas un métier qui est bien vu. Et puis je me demandais, mais pourquoi, en fait? Tout le monde a besoin d'une coiffeuse ou d'un coiffeur. Tout le monde a besoin. Quand on va chez le coiffeur, les gens, ils sortent de là, ils sont trop heureux. Ils sont trop contents. Ah, j'ai une nouvelle coupe. Je me sens léger. Tout le temps, j'entends ce mot. Ah, je suis légère. Les femmes, dès qu'elles ont envie d'un changement dans leur vie, c'est le premier truc auquel elles pensent. C'est vrai. Après, je dis les femmes parce que je suis une femme et que je parle pour mon groupe d'humains, hein, ne soyez pas offensés. Mais peut-être que les hommes, c'est pareil. Je ne sais pas, je ne suis pas un homme, je n'ai jamais fait cette expérience encore. J'ai jamais eu d'incarnation masculine encore, donc je ne sais pas, mais ouais, je me disais, mais en fait, le coiffeur, la coiffeuse, il prend soin des gens.
Oui.
Tu vois, après, à certains niveaux, il y en a qui font ça pour le business, il y en a qui font ça parce que c'est un taf, il y en a qui font ça pour plein de raisons, en fait. Mais c'est vrai que je pense que dans l'expérience qu'on recherche quand on va chez le coiffeur, c'est qu'on prenne soin de nous, en fait. Donc oui, on va prendre soin d'une partie du corps, donc la tête, les cheveux et tout. Et puis j'ai lu un article aussi, du coup, je sais plus quand là, où il parlait de l'importance sacrée des cheveux. Et je me rappelle, toi, quand t'étais venue faire mon Give Me Curls, tu m'avais dit, non mais là on va enlever les mémoires, là faut couper, là tu vois pas, faut couper, là il y a des fourches et tout. Et en fait je me dis, ah mais ouais, en fait la manifestation physique des mémoires mortes ou des mémoires anciennes à travers les cheveux, c'est les fourches au final, et on les coupe pour laisser de l'espace. Exactement. Donc c'est une façon aussi d'aller couper des mémoires dont on n'a plus besoin. Ouais. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est exactement ça, mais c'est trop ça. Et moi j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que je sais que c'est quelque chose qui te met encore dans l'inconfort. Ça y est, elle me dit.
Ouais, mais j'ai envie du coup, elle me dit oui. Voilà. Mais oui.
Et en fait, vous savez, sur ce podcast, on parle beaucoup de spiritualité. De n'importe quelle façon et sous toutes ses formes, je pense. Les personnes qui viennent sur ce podcast sont très différentes les unes des autres et ont vécu des choses très différentes. Mais s'il y a bien une chose qu'elles ont pratiquement toutes en commun, c'est qu'on sait plus ou moins quelles sont leurs missions d'âme. on comprend plus ou moins c'est quoi leur... Pourquoi elles sont ça dans le monde. Donc, quand t'étais plus jeune, tu disais... que tu savais pas que tes copines elles avaient une idée claire de où est-ce qu'elles allaient aller, où est-ce qu'elles avaient envie d'aller. Et moi, je me dis, mais oui, mais toi... vis-à-vis de ta mission d'âme et de qui tu es et du fait que tu sois corps énergétique dominant, c'est normal que tu savais pas ce que tu voulais faire. Peut-être qu'elles étaient corps mental, corps physique ou autre. ou corps émotionnel dominant, et que du coup c'était peut-être plus facile de comprendre ce qu'il faut faire comme ouais. action, ouais. alors que quand toi t'es dans un corps dominant, corps énergétique où tu es censé être que dans l'être, ouais. c'est difficile après de mettre des actions en place. Mais ça tu le comprends
maintenant. Voilà. Là, oui. Mais vraiment je le comprends que maintenant.
Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu vois, tu racontais ton histoire et tout, et en fait je me dis, bah en fait, quand on construit une entreprise, un business, ou quand on a envie de s'exprimer, d'exprimer qui on est dans le terrestre, comme je disais, hein, quand on a envie de mettre en terrestre ce qu'on est, et de se conformer à à comment le monde fonctionne au final,
c'est
parce
ça,
que
s'adapter
aujourd'hui dans le monde,
bah,
oui, on peut pas changer que l'argent c'est important, on peut pas mm-hmm. changer que travailler c'est intéressant. Moi je dis intéressant c'est parce que j'adore mon travail. On peut pas changer que c'est nécessaire même limite, tu vois, je dirais ça. Mais on peut changer la façon dont on l'appréhende, on peut changer la façon dont on va le vivre, oui. et on peut changer la façon dont on va s'exprimer nous. Donc toi, au final, toute ta vie, tu t'es rendu compte que t'avais des talents. T'avais le talent de communiquer, t'avais le talent d'être avec les autres, t'avais le talent de prendre soin, mais t'étais pas dans ce que tu étais censé être dans ta zone d'expression de toi. Et puis un jour, il y a eu la coiffure qui s'est amenée à toi. Et bim, c'était une révélation. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, ce que tu fais dans ton entreprise, c'est vraiment ça, c'est... Tu es et tu fournis qui tu es toi au service de l'autre à travers la porte de la coiffure. Tu vois, comme il y a des gens qui feraient à travers la porte du Reiki, yes. à travers la porte du Lao Chi, à travers la porte d'être
c'est
coach,
ça.
D'être leader, d'être ce que tu veux. Toi, c'est ça ta porte.
Ouais.
Et tu proposes plusieurs prestations qui sont finalement une expression de qui tu es dans ce contexte précis.
Exactement.
Voilà.
Et c'est très bien dit. Parce que j'adore que tu mettes des mots sur qui je suis, sur ce que je fais, parce que je sais tellement pas ce que je fais, et je le fais. Et quand les gens me demandent ce que je fais, c'est compliqué pour moi de répondre. Et parce que c'est une expérience. Du coup, maintenant, ça y est, j'ai compris, voilà. Donc, je suis une expérience.
Mais c'est comme on se disait il y a deux jours, hein,
bonjour,
si tu viens faire l'expérience, oui. Charlotte. Quoi.
Je m'en rends compte parce que du coup, bah, à chaque fois que je pars avec ma petite valise, que je prépare mes affaires et que je vais faire ce guide-maker, je suis excitée de voir qui c'est que je vais rencontrer et quel est le miroir, je te disais, quelle est la partie de moi que je vais découvrir, que je ne connais pas ou qui va falloir, enfin, qui résonne chez moi, chez la personne et cette connexion qui va se créer.
Ou qui résonne pas d'ailleurs, parce
oui,
que j'imagine qu'il y a des fois, c'est pas forcément fluide, quoi. Je sais pas.
C'est rare.
Ouais, c'est rare.
Parce que il y a toujours quelque chose que je vois et qui est en commun et qui va nous faire du bien et l'une et à l'autre. Il y a une connexion qui se crée au moment. Qui est fort et après voilà les messages passent qui doivent passer et bref mais j'ai compris cette dimension sacrée des cheveux aussi, je voulais revenir là-dessus parce que finalement en fait les cheveux comme tu le disais ce sont nos antennes en fait.
Non mais c'est très bien que t'expliques ça.
Les antennes en fait c'est notre force vitale. Et ce sont les mémoires, ce que j'explique à chaque fois dans les Give Me Care, les mémoires de tout ce qu'on a vécu en fait. C'est créé au moment, à l'instant T, et ça reste figé. C'est mort dans le sens où il n'y a pas de nerf, où ça n'a pas mal, mais c'est le.
C'est un peu la poubelle du corps, quoi. Non
c'est un déchet.
Ouais.
C'est un déchet. Comme les ongles, c'est un déchet. Ce sont les déchets de nos os.
D'accord. Oui, c'est ça que tu m'avais raconté. Ouais, je trouvais ça fou.
Les déchets
fou.
De nos
ouais.
os, donc t'as plus ou moins de déchets sur ta tête, après à toi de voir.
Mais finalement, du coup, de se raser la tête, c'est comme faire un complet reset de tout ce que t'es, quoi.
Et souvent.
Moi, j'y arriverai pas.
Mais il y en a que j'ai rencontré d'ailleurs souvent, enfin pas souvent, mais ça c'est arrivé dans les gimmickers qui ont déjà fait ça. Et c'est vraiment. Ouais, mettre un gros, ça y est, c'est un gros ménage, quoi. T'as tout enlevé, mais du coup, t'enlèves toutes tes mémoires, mais faut être prêt, c'est sacrément violent, en fait.
Ah,
c'est
oui,
juste
oui, oui.
ça.
Ouais.
Et c'est pour ça que les gens, il y a du mal à toucher les cheveux, il y a une dimension très intime avec les cheveux, parce que tu vas au profond, tu vas, c'est toi, c'est ton être, c'est tes mémoires, c'est qui tu es, c'est tout ce que t'as vécu. C'est pour ça que quand on a vécu une séparation ou quelque chose, on a besoin de, c'est pour ça qu'on va chez le coiffeur pour changer de tête. On va pas changer de tête. On va juste couper ce qui ne va plus, ce qui ne correspond plus, ce qui ne va plus avec nous, et on, pour laisser arriver le nouveau. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, ce que je faisais, c'était un rituel, un vrai rituel de passage Et parce que je fais que dire ça à chaque fois, je dis, mais en fait, je suis de passage. Moi, si je suis là, c'est parce que tu vis un passage. Et je vais juste t'accompagner dans ce passage à dire au revoir à l'ancien, à tous ces schémas.
Et à travers les cheveux, quoi.
À travers les cheveux. Mais c'est ce que j'ai vécu. Je suis juste en train de partager ce que moi-même j'ai vécu. Donc, et je peux faire que ça de toute façon. Et les autres font ça aussi. Et je les encourage à faire ça, en fait. En gros, de dire, mais voilà, maintenant, ça y est, c'est bon. Tu peux enlever tout ça, là, tous ces schémas, tout ce qui te correspond plus. Et tu dis, et tu accueilles le nouveau, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu te souhaites. Moi, je suis une rêveuse. J'ai toujours été mise de côté parce que je rêvais beaucoup. Et que j'étais dans la lune, et que parce que j'étais dans mon corps énergétique, en fait, tout simplement, et que je me rechargeais. Parce que de s'adapter aux énergies des uns et des autres, d'être caméléon tout le temps, mais ça prend de l'énergie. Et du coup, là, en fait... En ce moment, je sens que je suis en train d'activer les corps énergétiques comme moi. Parce que la société a mis un peu en valeur, ou juste ne connaît, elle n'a pas mis en valeur, mais elle ne connaît que le mental et le physique. Et moi, c'est pas mes corps dominants où j'excelle. Donc, du coup, je rencontre des corps énergétiques ou des corps émotionnels, et je leur donne un petit peu mes outils, si tu veux, de comment j'ai vécu moi, comment je m'en suis sortie, comment je me suis révélée. Là, je suis bien, mais je te donne juste les clés pour que toi, tu ailles bien.
Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ta mission d'âme?
Je le dis pas souvent, mais...
Ouais, là, tu peux te dire. Enfin, si tu veux, bien.
Mais oui, ma mission, on est obligé de ma mission d'âme, ici, je suis venue ici, sur Terre, pour dire au monde que tout est amour.
Ok, alors je vais te mettre dans une autre zone d'inconfort. Est-ce que tu peux me dire... Comment est-ce que toi tu lis aujourd'hui, là, avec toute la compréhension et toute la conversation qu'on vient d'avoir, comment est-ce que tu lis ta mission d'âme à ce que tu fais avec les gens aujourd'hui et à cette dimension sacrée du cheveu et de la place que ça a pris dans exprimer qui tu es aujourd'hui?
Pour moi, j'ai compris il n'y a pas longtemps, parce que ça fait pas longtemps que je suis dans ma mission d'âme. Et j'ai dû uploader les autres avant.
Et parce que t'as quel âge là?
J'ai 33 ans.
Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, j'ai dit à 33, il me reste encore un an, à 33.
Non, bon. Mais on est en plein dedans. De toute façon, là, tu vas vraiment commencer à en réellement fait,
là,
vivre ta mission.
J'ai exploré, si tu veux, maintenant, dire au monde que tout est amour, c'est simplement être moi qui je suis, avec la dualité. Et ancrer ici l'équilibre que moi j'ai naturellement, et ça a été dur pendant très longtemps pour moi, ça, cette sagesse qui est très forte en moi, et là, je, si tu veux, en gros, je suis en train de remettre l'équilibre, en gros, et de dire aux gens, en fait, tout ce que tu as vécu, c'est ok, et c'est juste, et ça va t'apporter, et tu peux décider, tu es libre créateur de ta vie. Et tu peux décider ce que tu as envie de faire et d'être. Et le bien et le mal, c'est comme le chaud et le froid, en fait. C'est on a besoin d'une douche chaude quand on a froid, on a besoin d'une douche... Enfin, tu vois, et tu peux pas dire « je suis que dans la lumière, je suis que amour, je suis... » Ça n'existe pas, en fait, on ne vit pas l'un sans l'autre.
Mais même, on peut être amour dans l'ombre, hein.
Mais c'est ça.
En fait, c'est quand même limitatif de dire que l'amour, c'est que... des couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Quand on vit des choses très difficiles, c'est aussi une forme d'amour.
Exactement.
C'est juste pour peut-être apporter d'autres choses. Au contraire, enfin moi, tu sais que mon travail, moi j'adore le travail de shadow work. Moi, c'est mon truc, quoi. Tu vois, moi j'aime aller chercher dans les ombres des gens. J'aime aller poser des questions qui m'est inconfortable. Mais ça fait partie de ma mission d'âme, de qui je suis fondamentalement. Et tu disais un truc aussi que voilà, que toutes les personnes qui ont vécu des choses. En fait, moi je dis souvent aux gens quelque chose. C'est pas parce qu'on a vécu des choses que ces choses doivent définir qui on est. Qu'elle soit dense ou légère.
C'est ça.
Voilà, on n'est pas défini par les expériences qui nous arrivent ou les expériences qu'on se crée. On est défini par ce qu'on choisit la plupart du temps. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le monde. Et surtout, parce qu'on va y mettre et comment on va les transformer.
C'est voilà. Ça.
Et des fois, c'est difficile de passer d'un état à un autre, et pour des milliers de raisons qui sont toutes légitimes et valides au final. Chacun vit dans sa propre réalité, et c'est ok ça. Mmh. Mais en fait, c'est peut-être ça que des personnes comme toi, ou même moi dans mon rôle, même si on n'a pas la même mission d'âme, on est venu peut-être montrer aux gens qu'il y a d'autres façons.
C'est ça. Voilà. Je pense que du coup, comme je suis complètement... Je me rends compte que je suis atypique maintenant. Plus ça va, plus je me sens différente. Et du coup, je réveille ça dans les gens. Je réveille leur côté, leur unicité. Mmh. Et vas-y, sois qui t'as envie d'être en fait. Mmh. Vas-y, tu peux y arriver, tu peux le faire. Et t'as toutes les clés en toi. Crois en toi. Je réveille la déesse quoi.
Ouais, ouais,
et coucou.
C'est trop bien. Donc voilà. Bah...
Donc d'où le. En fait, je suis en gros. Enfin, j'ai des. La prêtresse de la rose, ça me parle beaucoup. Mmh. Tu vois.
C'est un archétype.
Ouais. De d'amener ancrer la douceur, la beauté, la lenteur, et pour apprécier, faire s'ancrer dans le moment présent, et calmer, ralentir. C'est toute cette expérience là que j'ai vécue moi, de ralentissement, et que je vis encore, et que je t'en ai parlé il y a plus longtemps, qui n'était pas facile aussi à vivre des fois.
Mais c'est ça que j'allais te poser. Est-ce que toi t'arrives à l'appliquer tout le temps?
Mais non, bien sûr que non, je suis comme tout le monde.
Mais tu, on va dire que peut-être ça dure moins longtemps qu'avant.
Oui, de l'appliquer. En fait, c'est juste que maintenant ça va super vite, et que j'ai appris à écouter mon mental, à écouter tous mes corps en fait, physique, émotionnel, mental et énergétique. Merci. Et que du coup, je passe d'un état à l'autre, et je très rapidement, parce que j'écoute fort mon instinct en fait. Et j'ai plus le choix en fait. Là maintenant, je suis arrivée à un moment dans ma vie où je n'ai plus le choix de vivre et qui je suis, et après de voir qu'est-ce qui est.
Puis je pense au-delà de j'ai plus le choix. Non, t'as fait le choix.
J'ai fait le choix
d'être
oui,
toi.
Exactement.
À 150%.
Parce que je peux plus en fait.
Et avec tout ce que ça inclut, tout l'inconfort que ça peut t'apporter, c'est parfois, toutes les révélations que ça peut t'apporter parfois, tout ce côté antisocial que tu ressens, hein, parfois aussi, tu me disais qu'il change énormément parce que du coup, bah, tu sens que ta vie change, que toi tu changes, que, enfin, tu deviens toi. Et en devenant soi, ben, on enlève les couches sur tous les aspects de notre vie. Ouais. Les couches des relations amoureuses, les couches des relations familiales, les couches du rapport avec l'argent, les couches, plein de couches, en fait. Et ça fait énormément de couches à enlever. Et, quelle est la plus grande leçon de vie que t'as apprise, toi, dans toutes tes expériences, pour finalement arriver à devenir qui t'es maintenant? Quel est le plus grand truc aujourd'hui, tu dis, non, moi, j'applique ça tout le temps maintenant?
Tout même est si... juste.
Ouais. Ça, c'est la plus grande phrase.
C'est la plus grande phrase. Parce que, quand j'ai vraiment compris j'étais pas le bourreau, j'étais pas la victime, j'étais pas le sauveur, et qu'en fait, j'étais moi, et que que tout était juste, quoi. Que s'il m'arrivait des merdes, en fait, c'est parce que, ben, soit ça devait m'apporter une leçon, soit ça me faisait grandir, que si j'étais en retard, ben, ça arrangeait quelqu'un, et il y avait toujours ce ying et ce yang, tu vois, le noir et le blanc. Moi, je vois ça comme le chaud et le froid. C'est vraiment le truc, et que, du coup, tout était parfait. Et que même ce qui me paraissait, inconfortable, que juste j'avais à vivre des moments, et que ils étaient agréables ou désagréables, en fait, en gros, et que je pouvais même choisir que ce désagréable se transforme en agréable. Et du coup, bah, ouais, c'est ça la grosse leçon, tout est juste, tout est parfait. Ce que tu ressens, c'est parfait. Là, t'as envie de pleurer, là, je ressens une émotion, et ça sort, libère-la, lâche-la. Et en fait, c'est ça qui a accéléré tout le processus. Voilà,
ouais, vivre,
quoi, juste être, quoi.
Voilà, c'est ça, ouais. Ouais.
Voilà, et donc c'est le message, c'est ça, dire à tout le monde que je crois. <Ouais. rire> Que juste sois, en fait, vas-y, tu peux être, t'es en sécurité si tu décides que t'es en sécurité. Mm-hmm. Enfin, tu peux exprimer tes émotions, tu peux être libre d'exprimer ta pensée, d'être toi, c'est ce que je suis en train de... Ça, c'était un challenge pour moi, là, aujourd'hui.
Ouais.
D'exprimer ma vérité. Et de montrer au monde qui je suis vraiment, enfin une partie de moi du moins, une heure de temps c'est pas grand chose mais voilà, je me mets à nu.
Comment est-ce que ça résonne pour toi ce titre du podcast Le Droit d'être, du coup avec tout ce que tu viens de nous partager, donc vis-à-vis de ton parcours, ton changement, ta reconversion professionnelle, ta découverte au final professionnelle, j'ai envie de dire, parce que c'est même pas une reconversion, c'est juste plein de composants qui ont formé une équation qui finalement a arrivé à un résultat et qui t'a fait vivre cette expérience-là et te faire prendre conscience que mais ouais, en fait j'ai envie de faire ça. Et même avant de te dire est-ce que je peux me faire payer, t'as juste vécu cette expérience-là parce que ça te faisait kiffer, voilà, parce que ton cœur était en joie, parce que tes mains étaient en joie quand ça bougeait, donc tous tes corps étaient alignés, moi vraiment ce que je ressens c'est que tu as vécu cette expérience-là avec tes quatre corps, et en faisant ça, et ben il y a des choses qui se sont des opportunités, les portes. Moi, j'aime bien dire dans opportunité, il y a porte. Oui. Et les portes se sont ouvertes facilement parce que tu étais en train d'incarner pleinement qui tu étais et de nourrir tes quatre corps. Et ouais, donc...
Donc, est-ce que ça résonne chez moi, le droit d'être ?
Comment est-ce que... comment est-ce que toi, tu... Quel mot, quelle phrase, quel ressenti tu mettrais sur le nom de ce podcast, Le Droit d'être. Qu'est-ce que ça fait bien faire résonner chez toi ?
Chez moi ? Moi, ça a été une révélation, meuf, ton podcast. J'ai trouvé ça... Déjà, ça permet... Pour moi, tu as un œil, tu vois. Tu as une perception. Et tu permets... Ce podcast-là permet de montrer qui on est au monde. Et du coup, à beaucoup plus de gens. Je pense que plus on va parler... De nos expériences, de qui on est, de nos ratés, de nos succès, et plus on va pouvoir s'interconnecter et libérer du coup des mémoires et des schémas qui ont plus besoin d'être là, c'est bon, faut se libérer juste de qui on est et être soi, tu vois. Et pour moi ton podcast il aide à ça, il aide à prendre des gens et à leur faire parler d'eux et de qui ils sont pour que certaines personnes se reconnaissent dedans et puissent s'identifier et se sentent en communauté, se sentent en sécurité et se libèrent, tu vois, je le vois comme ça, parce que c'est ce que ça a fait chez moi en fait, et qu'à chaque fois que j'écoute un podcast dans ma voiture, parce que je suis énormément dans ma voiture, je me reconnais dans les personnes que tu interviews
et j'ai envie de le partager.
Et à chaque fois ça correspond à quelque chose de ma vie, un passage ou à une personne que je connais, du coup je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir l'aider.
Donc toi tu mettrais le mot le droit d'être pour interconnexion. Et ben dis donc, c'était super chouette, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présence. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses sur toi que je ne connaissais pas. Donc, c'était super riche pour moi. T'as donné des super belles clés. T'as partagé qui tu es. Et franchement, j'ai envie de te dire bravo parce que je sais que c'était un exercice qui était pas facile. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter Charlotte que moi, j'ai pris à écouter son histoire et à l'interviewer pour ce deuxième épisode de la saison 2. Du podcast. Et puis je vous rappelle encore une fois, hein, comme je dis souvent, ton histoire elle est importante et ton histoire inspire le monde.
Oui, et ben c'est ça. Voilà. C'est ça que j'aime. Voilà.
Donc merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et puis je vous dis à très vite.
Merci.